Télégramme, machine.
Télégramme, machine.
19 lignes, machine.
19 lignes, machine.
Sens unique, non-sens.
Sens unique, non-sens.
Feedback machine technique, art. Sociosystème sémiotique. Machine, toujours plus, déterritorialisée. Liquidation, universaux, signifiant, etc.
Etc.
Machine abstraite. Cristallisation de potentialité. Danse muette, en deçà, coordonnée, temps, espace, substance d'expression, matière intensive. Abolition, point fixe, transcendant, histoire. Invariant provisoire tissé sur phylum machinique. Agencement collectif.
Rupture.
Rupture énonciation individuée. Sujet responsable. Coupable. Out. Splitting du moi. Manque. Phallus. Complexe structuralisé. Linguitisé. Traductibilité universelle. Out. Out. Out.
Out. Out. Out.
Signification toujours affaire de pouvoir. Grammaticalité dominante. Spécialiste interprétation, flic du signifiant. Côté désir, puissance, rhizome. Côté pouvoir, trou noir, arborescence, hiérarchie. Manichéisme des valeurs. Fin du camp d'assoi. Devenir animal, plante, cosmos. Devenir femme. Défaire stratification du pouvoir. Rhizome. Entrée multiple. Machine technique. Art. Socius. Système sémiotique. Sens unique. Non-sens.
Non-sens.
Mutation machinique. Abstraite. Plan, consistance, U, machinique. Strat,
strat,
représentation, production, signe, chose, socius, out. Rupture, opposition, sujet, objet. Sémiotisation ouverte. Agencement machinique. Procès collectif, énonciation, production. Sujet transcendantal, out. Multiplicité, intensité, déterritorialisé.
Je répète. La bonne classe ouvrière, c'est comme la bonne justice. C'est comme réclamer de bons juges, de bons flics, de bons patrons, de façon à mieux écraser les phénomènes d'expression des masses pour marginaliser le désir. Là-dessus, on nous dit, comment voulez-vous unifier les luttes ponctuelles sans un parti? Comment faire marcher la machine de guerre sans un appareil d'État? Que la révolution ait besoin d'une machine de guerre, c'est évident, mais cela n'a rien à voir avec un appareil d'État. Qu'elle ait besoin d'une instance d'analyse des désirs des masses, c'est certain, mais pas d'un appareil extérieur de synthèse. Donc, pas question de coiffer, de totaliser les mouvements partiels, mais de les brancher sur un même plan de bascule. Tant qu'on en restera à une alternative entre le spontanéisme impuissant des masses et le codage bureaucratique et hiérarchique d'une organisation de parti, les mouvements de libération du désir se feront récupérer, encerclés, marginalisés.
Félix Guattari. La révolution moléculaire. Discussion avec Stéphane Nadeau.
Le propre de la révolution moléculaire des deux premières versions, c'est que c'était des recueils d'articles. Donc les articles avaient été des recueils d'articles qui eux-mêmes étaient souvent des interventions publiques dans des contextes politiques bien particuliers, je pense qu'on y reviendra, soit politiques, soit cliniques, de psychanalyse, soit philosophiques, hein, pour disciplinariser les choses. Et donc de fait déjà, la façon dont Guattari avait écrit ses textes était éminemment collective, puisqu'il les écrivait pour des gens, avec des gens la plupart du temps, alimenté par ce que lui donnaient les autres. Donc déjà, en soi, ce type de texte, étant un collage d'articles, répondrait assez mal à une définition, on va dire, univoque de l'écrivain, du sujet écrivain, du sujet auteur. Donc ça, c'est la première chose. C'est l'aspect pratique. Donc du coup, moi, ce que je fais, ce que j'ai proposé donc, aux Prairies Ordinaires, c'était de remonter ces articles existants ensemble. Donc c'était, on en a peut-être sur l'aspect concret de la construction du livre, mais voilà, de les remêler. Mais au bout du compte, je n'ai pas fait autre chose que ce qu'a fait Guattari lui-même à partir de ses propres textes. D'accord ? Donc déjà, on peut dire, et c'est le second point. Donc le premier point, c'est l'aspect concret. Hein. Ces articles sont déjà des articles à visée collective. Deuxième point, c'est qu'il y a une différence... Enfin, on peut considérer qu'il y a deux Guattari. Le Guattari qui écrit, le Guattari qui produit le texte, et le Guattari qui l'agence. On peut déjà considérer que ces deux Guattari-là ne sont pas le même. Voilà. Auquel cas, Guattari qui écrit, Guattari qui agence, Guattari qui écrit, Nadeau qui agence, quelle est la différence ? Elle n'est pas très énorme. Si ce n'est que je ne m'identifie pas à Guattari, mais en même temps, je suis aussi différent subjectivement de Guattari que le second agenceur l'est du premier. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Mais ce que je vous dis là pour un texte comme ça, recueil d'articles, etc., ne doit pas nous abuser, parce que je pense qu'il en est de même pour toute production. Alors j'allais dire littéraire, intellectuelle, d'écriture, je pense que je peux dire de toute production, en fait. Et c'est l'une des leçons fortes du travail commun de Guattari et de Deleuze, c'est que lorsqu'on écrit, on n'est pas tout seul à écrire. On est une collectivité. Alors quand je dis on n'est pas tout seul, ça ne veut pas dire qu'on est plusieurs individus, mais que dans l'individu que nous croyons être, il y a une multitude qui fait cette subjectivité que nous croyons individualisée et qui est le sujet de l'écriture, alors que probablement ce n'est pas un sujet de l'écriture qui a donc plusieurs sujets. C'est que l'individu et l'illusion que se donne un certain mode de fonctionnement, que Guattari et Deleuze appellent capitalistique, que d'autres, à d'autres époques, ont appelé le dharma, si on prend les définitions bouddhistes de l'illusion de l'individu, c'est le nom, l'individu, que l'on donne, qui se donne à cette collectivité. Donc il n'est pas proprement peuplé, l'individu d'un peuplé. Il est ce qui vient se substituer dans nos petits esprits facilitateurs de la pensée, ce qui vient se substituer à ce peuple. Voilà. Il y a de rares moments où ce peuple se donne, alors évidemment toujours par l'intermédiaire de l'individu, puisqu'on ne sait pas faire autrement. Je suis là, vous êtes là, il y a ce micro, enfin... Mais il y a des moments où cette multitude arrive soit à sortir, à s'exprimer, je sais pas, les auditeurs y mettront ce qu'ils veulent, l'art, la littérature, la vraie philosophie, etc., etc. Et puis il y a des moments aussi où par le dispositif même, ça se voit de façon évidente. Soit parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'organisation même de l'œuvre fait comprendre qu'il y a peuple, soit parce que la construction même est voulue ainsi par l'individu qui, visiblement, partout on est évidemment le prototype psychopathologique, si on peut dire, n'arrive pas à se satisfaire de cette individualité et ne peut faire autrement que de le laisser parler le peuple, y compris même si ça le détruit. Donc voilà, c'est plus en ce sens-là, je pense, qu'il y a une multitude et un peuple. Oui, j'aime bien le mot, en fait. Je pense que c'est ça. L'individu est l'illusion qui cache le peuple. Oui, ça, c'est très très probablement.
Une révolution molaire, à grande échelle, est devenue inséparable de l'expansion, de la dilatation, des révolutions moléculaires qui engagent l'économie du désir.
Il y a trois champs disciplinaires interprétatifs qu'on va d'abord attraper pour essayer de mieux les abandonner, qui permettent de comprendre ces thèmes. Donc révolution molaire, révolution moléculaire, économie du désir. Révolution économie, ce sont des termes qui sont explicitement employés ou enfin utilisés, empruntés au vocabulaire politique, économique, marxiste, on va dire, pour faire simple. Désir, c'est évidemment un terme qui est explicitement emprunté à la psychanalyse. Molaire et moléculaire sont des termes qui sont explicitement empruntés à la science. Alors ça, si on regarde un peu cette phrase-là, effectivement, ces trois éléments, la science, le marxisme, la psychanalyse, Freud, on va dire, Freud, Lacan, sont probablement, effectivement, les mamelles de la façon dont Guattari essaye de construire toute son œuvre. Et ça, on le retrouve, mais vraiment du début jusqu'à la fin, et évidemment de façon particulièrement visible dans le travail qu'il fait avec Deleuze, parce que la question très clairement dans l'Anti-Oedipe de Marx et de Freud, de cette jonction impossible et dangereuse entre le désir et la révolution, entre le... se fait à l'aune d'un intérêt particulier de Guattari pour la science. Science que moi je mettrais, molaire et moléculaire, science que je mettrais tout à fait du côté également de la religion. Science étant une nouvelle religion, enfin quelque chose comme de cet ordre-là. Donc on va dire politique, psychanalyse et religion, philosophie, science, quelque chose comme ça, d'un rapport particulier du savoir au pouvoir, de l'organisation. Voilà. Donc, déjà, ça, donc c'est effectivement cette phrase-là est vraiment très très caractéristique de la méthode de Guattari. Alors ensuite, après, l'expliquer, essayer de la comprendre. Moi, à chaque fois que j'ai travaillé avec Deleuze et Guattari, ce que je fais, c'est que je suis assez scolaire au bout du compte, c'est que je vais regarder la définition des mots. Parce que Guattari adore utiliser des mots beaucoup, 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 nouveaux, étranges, étonnants. Donc molaire, c'est lorsque, en science, les gaz, les molécules, par exemple d'un gaz ou de quoi que ce soit, s'organisent entre elles pour former ce qu'on appelle une mole, c'est-à-dire une organisation particulière de toutes ces molécules. Moléculaire, c'est évidemment un niveau beaucoup plus infra, beaucoup plus microscopique, beaucoup plus petit. Pas microscopique, puisque les moles sont déjà microscopiques, mais en tout cas beaucoup plus infra, beaucoup plus petit. Voilà. Donc voilà, déjà, révolution molaire, révolution moléculaire, on pourrait penser que, en ce qui concerne notre statut d'individu considéré comme une molécule, ce dont parlait Guattari, c'est la révolution molaire, la grande révolution qui engagerait... voilà, les lendemains, tout ça, le grand soir, etc. La révolution moléculaire, c'est ce qui se passera à l'intérieur de chacun. D'accord, on pourrait l'interpréter comme ça. Je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est pas du tout ça. Mais c'est une des interprétations très très fréquemment faites, c'est que la révolution moléculaire, c'est ce qui se passe au niveau individuel, la révolution molaire, c'est ce qui se passe au niveau collectif. Or, on revient à ce qu'on disait au début de notre conversation, c'est d'emblée imaginer qu'il y a une distinction entre l'individu et le collectif. Or, je pense que, et le troisième terme, économie du désir, vient de le démontrer, dans cette phrase, qui résume assez bien la révolution moléculaire, l'économie du désir montre que le désir ne se satisfait pas uniquement de cette distinction simpliste entre l'individu et le collectif. Donc, révolution moléculaire n'est pas l'individu, révolution molaire, c'est pas la société, le groupe. Ça serait plutôt révolution moléculaire, c'est ce qui vient travailler le désir dans ce qu'il a de plus collectif. La révolution molaire serait peut-être la façon dont la révolution, on va revenir sur le mot, mais la révolution se jouerait à un niveau, on va dire, beaucoup plus visible, peut-être, beaucoup plus... justement, paradoxalement, je pense, beaucoup plus individualisé. Alors, quel exemple on pourrait prendre ? L'exemple de l'écriture, pour moi, est un très très bon exemple. Il y a une révolution du désir, une révolution moléculaire à ne pas se satisfaire du fait que lorsqu'on écrit seul, quand bien on est seul à écrire, on n'est pas une collectivité qui déjà est en train d'écrire. Que lorsqu'on est seul à penser, on n'est pas déjà une collectivité qui est en train de penser. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la révolution moléculaire. Il y a quelque chose d'éminemment molaire lorsque toutes ces collectivités se réindividualisent, soit dans un jeu pour l'individu, soit dans un nous pour ce qu'on appelle habituellement dans le langage courant le collectif. Pour avoir cette réindividualisation, quand bien même elle se passe entre plusieurs individus, c'est une réindividualisation. Probablement pour avoir plus d'efficace, parce que si l'individu n'est pas suffisamment individualisé pour tenir son stylo ou taper sur son clavier, il n'arrivera pas à écrire son texte. Si le groupe, le groupe collectif n'est pas suffisamment individualisé pour qu'il y ait un cadre hiérarchique qui l'organise avec un chef, des gens qui font ceci, ceux qui collent les tracts, ceux qui viennent enregistrer, ceux qui viennent, etc., ce qui se passe, ceux qui dirigent, ceux qui sont... il y a probablement de grandes chances qu'il y ait peu d'efficace sur l'action politique. Donc, l'intérêt dans cette phrase-là, c'est effectivement de dire que si on se polarise sur la révolution moléculaire, si on se polarise sur la révolution molaire, on loupe quelque chose qui est cette interpénétration totalement... oui, comment dire, vraiment, oui, interpénétrée, j'allais dire, interpénétration, interpénétrée, c'est rigolo, mais intime, très très intime, entre ces différentes façons d'envisager la révolution. La révolution du désir, si cette collectivité-là doit vraiment effectivement se donner, elle se donnera probablement de façon éminemment inconsciente. À partir du moment où vous la re-récupérerez, vous la re-récupérerez, de fait, elle redeviendra individualisée, redeviendra molaire. Donc là, vous pouvez toujours dire « Ah oui, non, mais moi je fais pas du molaire, je fais du moléculaire. Moi je fais pas de la merde, je fais de l'art. Je fais pas de l'écriture, je fais de la littérature. Je fais pas de la philosophie... de bas étage, je fais de la grande philosophie. » Vous pouvez toujours dire ça, ce « vous » est de trop. Si la vraie philosophie, si la littérature, si l'art, non pas au sens d'une valeur supérieure à une autre, mais au sens d'une expression du désir, de cette économie du désir, se fait, ce n'est sûrement pas parce que le molaire a disparu. Y a pas... L'écrivain ne perd pas son stylo, le peintre ne perd pas son pinceau, l'orateur ne perd pas sa voix, mais à travers cette voix, ce pinceau, ce clavier, ce stylo, qui sont des éléments éminemment molaires, éminemment individualisés, se donne quelque chose de l'ordre du moléculaire. Dans l'anti-Oedipe, c'est exactement la même chose. L'anti-Oedipe n'est pas un appel à casser la gueule à Oedipe. Pas casser la gueule à Oedipe. Si vous cassez la gueule à Oedipe, vous devenez psychotique. Pour le coup, le clinicien Guattari le sait très bien. Donc la question n'est pas de casser la gueule à Oedipe, la question est de savoir comment est-ce que se jouent les différents niveaux. Alors on est bien d'accord, hein, c'est pas des niveaux infra, des niveaux supra, des niveaux voilà, c'est les différents niveaux du jeu du désir qui passent tout autant par des individualisations que par des désindividualisations. Ce que Deleuze et Guattari, pour utiliser des termes qui leur sont propres, appellent des territorialisations et des déterritorialisations. Territorialisation étant évidemment du côté molaire, un territoire individualisé, quand même, il prend toute la planète, l'univers entier, un territoire, et une déterritorialisation, c'est-à-dire un rapport au désir qui n'a plus de territoire, qui traverse, que moi j'appelle là, pour un terme beaucoup plus guattarien que Deleuze-guattarien, collectif, en fait. Quelque chose de beaucoup plus transversal, une sorte de collectivité comme ça qui traverserait tous les... Donc ces deux sont effectivement, comme vous le dites, hein, molaire et moléculaire, sont liés. Il n'y a pas de révolution moléculaire sans révolution molaire, de révolution molaire sans révolution moléculaire, si tant est que la révolution ait du sens. Hein. Enfin, voilà, parce qu'on utilise beaucoup ce terme, mais voilà, peut-être que si tant est qu'effectivement il puisse y avoir une révolution du désir. Pour moi, la philosophie matérialiste veut dire quelque chose, je pense que Guattari en est vraiment le tenant. Enfin, c'est, je pense, le seul à... D'ailleurs, c'est pour ça que Guattari a une telle aura politique, et y compris maintenant. Ça a été le seul à pouvoir rester le... Je ne vais pas dire le point commun, ni le plus petit dénominateur commun, mais en tout cas le lien, quelque chose comme ça, le lien transversal entre tous ces mouvements politiques des années 70-80, extrêmement différents les uns des autres, par leur pratique, révolution versus, réforme, violence versus pacifisme, etc., que lui, en fait, d'une certaine manière, il traversait tout ça avec une indistinction entre la pratique et la théorie, entre le molaire et le moléculaire, entre la construction d'un livre fait de briques et de brocs et un livre extrêmement conceptuel. Voilà, il est vraiment dans cette ce que j'appellerais matérialisme. Voilà, bon, si tant est, mais un matérialisme que pour le coup, je il ne faut vraiment pas séparer de l'idéalisme. Vous voyez, parce que ce matérialisme facile qui viserait à dire le matérialisme, c'est la pratique. Voilà, c'est pas du tout de ça dont je parle. Ça serait le matérialisme au sens vraiment le plus marxiste du terme, en tout cas intéressant du marxisme. C'est le matérialisme n'est pas la pratique, l'exposition pratique d'une théorie qui lui est transcendante du tout. C'est cette indistinction entre la pratique et la théorie qu'on peut appeler éventuellement matérialisme. Mais voilà, Guattari en est vraiment un exemple assez fascinant, enfin assez extraordinaire.
des morceaux de marxisme déplacés peuvent et doivent concourir à une théorie et une pratique portant sur le désir. Des morceaux d'un freudisme déplacé peuvent et doivent concourir à une pratique portant sur la lutte des classes.
Il est dans une époque où justement on ne cesse de mêler Freud et Marx. Tout le temps, là, énormément de textes, quasiment toute la philosophie de l'époque, que ça soit, je sais pas, pour prendre deux figures complètement opposées d'un Badiou ou d'un Scherer, utilise ça à donf, ou d'un Hockenheim, allez, on va dire encore mieux, d'un Badiou ou d'un Hockenheim qui sont vraiment pas imaginés plus opposés. Dans la façon de concevoir la philosophie à cette même époque, 70-80, tout le monde est là-dedans. Donc oui, cette jonction est là, sauf que ce que dit Guattari, c'est que cette jonction, elle ne fait que interpréter avec des outils marxistes la psychanalyse, ou interpréter la psychanalyse avec le marxisme, la révolution avec des outils psychanalytiques. Ça, c'est pas le dépeçage dont vous parlez. Ça, c'est, on en reste uniquement à un niveau molaire, pour le coup. Réellement, une discipline vient influer sur une autre, et une autre vient influer sur la première. Donc ça, ce type de texte vient dire que ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui fonctionne, c'est que de fait, il y a quelque chose de désirant du côté de la révolution, et quelque chose d'économique et de révolutionnaire du côté du désir. Voilà, c'est une fois que vous avez donc la phrase que vous citez tout à l'heure, et ça à un niveau tout autant molaire qu'à un niveau moléculaire. Voilà, désir, révolution, désir, psychanalyse, révolution, marxisme, freudisme, marxisme, l'un, l'autre, molaire, moléculaire. Voilà, vous avez une articulation qu'il faut creuser, mais sûrement pas explicité à proprement parler. Donc oui, je pense que ça lui est réellement insupportable d'entendre des psychanalystes parler de marxisme sans être marxiste, et des marxistes parler de psychanalyse sans être psychanalyste. Sachant que pour lui, n'importe qui, à partir du moment où il est dans cette révolution molaire et moléculaire, est de fait et marxiste et psychanalyste. Alors vous enlevez l'éiste, hein, l'éisme si vous gonfle, ce que je comprendrais tout à fait. Donc, et du côté, voilà, de ce qu'a essayé de monter qu'a Marx, et essayer de ce qu'a essayé de monter qu'a Freud. C'est vraiment par rapport à ça, je ne saurais que conseiller la lecture d'un article hyper important sur de Foucault, sur le célèbre article Freud, Marx, Nietzsche, qui montre, qui est dans les écrits, dans les écrits, qui est un texte extrêmement important, qui essaye justement, avec d'autres outils que Félix Guattari, mais qui essaye de montrer cette dimension-là. C'est que, de toute façon, après ces auteurs-là, la façon de jouer de l'interprétation, du système interprétatif, de la façon d'envisager le monde, de la façon dont on est au milieu des signes, pour utiliser des termes deleuziens, est complètement modifiée, tellement modifiée, qu'il faut plonger dedans, ce que fait Guattari. Faut plonger dedans et sûrement pas essayer de revenir à des vieilles catégorisations qui vont nous permettre de comprendre Marx à l'aune de Freud, Freud à l'aune de Marx, etc. etc. Non, c'est à la limite les meilleurs marxistes sont ceux qui ne sont pas universitairement marxistes, et les meilleurs psychanalystes ceux qui ne sont pas passés sur le banc des écoles psychanalytiques.
Vous avez peut-être failli dire que les meilleurs marxistes sont ceux qui n'ont pas lu Marx, là.
Ceux qui n'ont pas lu Marx, enfin. Que les meilleurs marxistes sont ceux qui n'ont pas lu Marx, istes, mais qui ont lu Marx, comme on lit, je sais pas moi, qui on veut, mais comme on écoute Dalida peut-être.
C'est que Marx n'était pas marxiste.
Oui, et Freud n'était pas freudiste, et Deleuze-Guattari n'était pas deleuzo-guattarien. Et vous-même, et moi-même, nous sommes probablement très très peu, ce que nos noms rajoutés, auxquels on rajoutera un yin et un iste, viennent qualifier. Je pense que c'est effectivement cette dimension-là, ça c'est réellement insupportable pour Guattari. Il est vraiment là, enfin, c'est marrant parce qu'il me fait penser à un auteur de plus en plus qui est un de mes auteurs très 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 cher, qui est Kerouac. C'est-à-dire, ce sont des gens pour lesquels c'est vraiment insupportable. cette dimension-là, cette dimension hyper individualisée, et en même temps est aussi insupportable que l'idée d'une dimension hyper molécularisée. Quelque chose où ces gens-là sentent bien, ne sont pas assez fous pour que tout soit molécularisé, déterritorialisé, mais ne sont pas assez normaux pour que se satisfaire de cette molarisation, de ces territorialisations imposées par tout le système de signes dans lequel nous vivons. Ce sont des gens qui sont effectivement... pour lequel le terme que vous avez utilisé, c'est insupportable. Ils n'y arrivent pas, ils ne savent pas faire. Donc du coup, ils fabriquent des choses. Que le capitalisme n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question de désir. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est tellement... Alors que voilà, d'autres écrivaient à la même époque sur ces questions-là, Marcuse, etc., enfin, pour ne citer que le plus best-sellerisé. Mais le système capitaliste intégré est intégré de façon subjective à tout ce qui existe. Et ça c'est un élément effectivement qui est absolument remarquable et qui nous donne des grilles d'analyse. Le système capitaliste pour Deleuze et Guattari, est avant tout un système de production subjective. Oui. D'une subjectivité bien particulière, qui met en rapport le moléculaire et l'homolaire de façon bien particulière, qui entraîne une économie du désir bien particulière, qui se voit de façon macroscopique, économique, politique, par le jeu des démocraties libérales, par le jeu du marché, effectivement, qui est la partie dont les économistes se sont emparés, qu'ont vu en premier les économistes au XVIIIe siècle, très probablement. Mais ce que dit Guattari, c'est que ce n'est qu'une partie de cet iceberg. L'autre partie qu'on n'a pas encore vue, enfin, c'est pas une autre partie, hein, mais qui est inhérente à la première, c'est effectivement toute cette dimension subjective, ce qu'il appelle effectivement le capitalisme mondial intégré. Il y a un déplacement réellement, bon, alors là ça c'est mon dada, enfin la façon dont j'ai de le lire, mais il y a un déplacement de ces questions-là à l'aune de la subjectivité. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, c'est que ce qui se passe en termes de production... qu'on pourrait uniquement analyser d'un point de vue économique à force de termes aussi difficiles à comprendre que plus-value, qu'extorsion de la plus-value, que capital fixe, capital variable, que un capital où l'humain serait une plus-value où l'humain serait la force de travail humaine serait intégrable et neutre, ou elle ne le serait pas et où la machine en elle-même pourrait seulement être, créer une plus-value, etc. Toutes ces choses-là qui sont du langage vraiment purement, on va dire, économique, économiste, plutôt. Guattari les déplace complètement et les utilise dans un discours qui est totalement philosophique au sens général du terme, et est tout à fait capable de parler de plus-value à l'école, comme il est capable de parler d'école buissonnière dans l'usine. Voilà, il y a quelque chose comme ça de ce déplacement. D'où la raison pour laquelle le capitalisme ne s'écrasera pas tout seul. Parce que le capitalisme n'est pas un élément transcendant aux différents zones de désir qui le font marcher, de fait. Donc, aucune subjectivité individualisée, territorialisée, n'a intérêt à ce que le capitalisme s'effondre. Quand bien même il serait le sujet individualisé, le plus maltraité de la Terre, je ne sais pas, là, celui que... dans ce commandant Marcos énumère la liste, voilà, la prostituée ici, le mineur, l'enfant exploité là-bas, etc. Quand bien même celui-là fait en sorte que le capitalisme ne s'écrase pas tout seul. Parce que de fait, il est légalement lui aussi traversé par tous ces mécanismes que vous décrivez. Oui.
Have you not heard of that madman who lit a lantern in the bright morning hours, ran to the marketplace and cried incessantly, I'm looking for God, I'm looking for God. As many of those who did not believe in God were standing together there, he excited considerable laughter. Have you lost him then, said one. Did he lose his way like a child, said another. Or is he hiding? Is he afraid of us? Has he gone on a voyage or emigrated? Thus they shouted and shouted and laughed him to scorn. But the madman sprang into their midst and pierced them with his glances. Where is God, he cried. I'll tell you, we have killed him, you and I. We are all his murderers. How have we done this? How were we able to drink up the sea? Who gave us a sponge to wipe away the entire horizon? What did we do when we unchained this earth from its sun? Whither is it moving now? Whither are we moving now? Away from all suns, maybe? Are we not perpetually falling backwards and forwards, sidewards and in all directions? Is there any up or down left? Are we not straying through an infinite nothing? Do we not feel the breath of empty space? Has it not become colder? Is not more and more night coming on us all the time? Must not lanterns be lit in the morning? Do we not hear anything yet of the noise of the grave diggers who are burying God? Do we not smell anything yet of God's decomposition? God's decomposed too, you know, and God is dead. He remains dead and we have killed him. Now, how shall we, the murderer of all murderers, compose ourselves? That which was holiest and mightiest of all that the world has ever possessed has bled to death under our knives. Who will wipe this blood from us? With what water can we purify ourselves? What festivals of atonement, what sacred games will we need to invent? Is not this the greatest of deeds too great for us to handle? Must not we ourselves become God? Simply to seem worthy of it. There has never been a greater deed, you know, and whoever shall be born after us for the sake of this deed shall be part of a higher history than all history hitherto. Here the madman fell silent and again regarded his listeners. They too were silent and they stared at him in astonishment. At last he threw his lantern to the ground and it broke and went out. Come too early. My time has not yet come. This tremendous event is still on its way, still traveling, and it has not yet reached the ears of men. Lightning and thunder require time. The light of the stars requires time. Deeds require time even after they've done before they can be seen and heard. This deed is still more distant from them than the distant stars, and yet they have done it themselves. It has been related further that on the same day this madman entered diverse churches and there sang a requiem, Aeternum Deo. Led out and quieted, he said to him, retorted each time, what are these churches now if they are not the tombs and sepulchres of a dead God? We have killed him.
Oui, je crois qu'il y a, de la part de Guattari, l'idée qu'il faut faire la guerre à ce signifiant maître qui vient absolument tout rabattre, qui vient transformer toute scène politique, intellectuelle, d'écriture, voilà, en pièce de théâtre, dont on sait très bien comment ça commence, comment ça va s'écrire et comment ça va se finir, au profit de ce système capitaliste absolument tout-puissant. De l'interprétation, c'est-à-dire on sait très bien face à cette pièce de théâtre quelles vont être les paroles des critiques de Libération, du Monde, du Figaro, on sait très bien tout ça, on sait très bien comment ça fonctionne. Bon, et que ça, il faut, voilà, à un moment, il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc là, je prends l'exemple un exemple qui parle, j'imagine, mais à tous les niveaux. Alors, comment on... Bah, je pense que Guattari, du coup, beaucoup plus que faire la guerre à la signification, joue à ce moment-là un rôle de... Alors, quelle image ? L'image qui me vient, c'est d'un fourmilier. C'est marrant, j'avais jamais pensé à Guattari comme un fourmilier. C'est cet animal avec le long bec, là, enfin le long nez, qui vient fouiller comme ça. Mais il vient toujours fouiller, en fait. Il est chiant, d'ailleurs. Il est très chiant, par un côté. Parce qu'il vient toujours fouiller dans les trucs. On se dit, mais qu'est-ce qu'il vient foutre son nez là-dedans ? Parce que, visiblement, là, il sent... Enfin, il sent... Il a vu qu'il y avait un sens signifiant très fort, et il vient voir où est-ce que ça déconne, où est-ce que ça... Alors, décode, déconne, quelque choses comme ça. Et que là, il dit, bon, ben là, il y a quelque chose. Très bien, allez hop, on le voit, on s'en saisit. Est-ce qu'il faut le cultiver ? C'est une grande question, Grand problème de la théorie queer, est-ce qu'une fois que les multiples puces sur la fourrure du capitalisme se sont repérées comme des puces, est-ce qu'il faut les signifier, les individualiser au sein d'un vieux bonhomme allemand décédé récemment qui va dire du coup il va y avoir une force politique qui va avoir émergé ? Moi je suis très très loin d'en être convaincu, très loin. Je pense que le simple fait déjà de les avoir jouées fait que déjà elles sont en train de se déplacer, le recodage est en train de repasser, d'où ce il faut. Alors est-ce que c'est nihiliste comme vision ? Pas du tout. C'est que le fourmilier, une fois qu'il a foutu le bordel dans la fourmilière, éventuellement bouffé 2-3 fourmis, même un peu plus, ce qu'il fait, il ne s'arrête pas de vivre, il va aller voir une autre fourmilière. Ce qui l'intéresse, c'est l'échec de l'échec. Alors attention, en disant ça, évidemment, ceux d'entre nous qui participons à cette discussion entendront peut-être la négation de la négation, et hop, ça y en est reparti, évidemment. C'est beaucoup plus compliqué, enfin, je pense que c'est pas de ça. C'est l'échec en ce sens que, de toute façon, toute tentative politique molaire est nécessairement mise en face d'un échec. Cet échec, c'est celui de la réussite de la révolution moléculaire. Et chaque révolution moléculaire est toujours mise en échec. Cet échec, c'est la réussite de la révolution molaire. Et donc, en fait, il y a un jeu comme ça d'échec et de réussite constant qui vient se jouer, qui, pour le coup, n'est plus une négation de la négation, parce qu'on ne reste pas dans un même champ épistémologique, mais on déplace d'un niveau à un autre, d'un niveau subjectif à un autre, cette notion positive et négative, d'échec ou de réussite. Moi, je dirais, c'est plutôt ça. C'est là où le molaire se plante, il y a du moléculaire qui réussit. Là où le moléculaire se plante, il y a du molaire qui réussit. Mais si on a dans l'idée qu'on va enfin réussir à trouver le lieu, la pensée, où le moléculaire et le molaire ensemble réussissent, pour le plus grand bien de l'humanité, là, vous êtes sûr que vous êtes en train de vous planter. Enfin, vous êtes sûr que, de toute façon, rien de nouveau sous le soleil, comme dirait... notre ami ecclésiaste, ça va continuer. Voilà, c'est... Alors évidemment, si les deux sont en échec, ça revient exactement au même que si les deux sont en réussite. J'ai l'impression que je le tisserai un peu avec... un peu comme ça avec Gautier, ouais. Le devenir femme est forcément un échec lorsqu'il se joue au niveau molaire, et en même temps, il donne quelque chose de ce devenir femme au niveau moléculaire, qui lui-même sera probablement mis en échec s'il ne passe pas par le devenir femme qui se joue au niveau molaire par les revendications homosexuelles. C'est vraiment toute la... C'est des pistes, des grilles de lecture absolument indispensables pour comprendre ce paradoxe très fort du mariage pour tous, enfin pour tous, pour tous ceux qui ont des papiers en tout cas. Un certain type de papier. C'est des pistes très importantes pour comprendre ça. Comment, en même temps, a priori... Un individu de gauche ne peut être que pour soutenir une communauté dans cette demande-là, et en même temps ne peut que s'attrister de voir cette communauté être dans cette demande-là. Et que je pense que bien malin et surtout bien tordu serait celui qui pourrait dire qu'il a choisi entre le fait que vraiment les PD et les Gwyn qui veulent devenir mari et femme, ça montre à quel point ils sont complètement perdus pour la politique, ou alors ceux qui viennent s'opposer en disant « mais non, au contraire, ils ont tout compris la politique ». Non, là, on est avec ce type de lecture moléculaire et molaire, ça donne des grilles intéressantes qui font « ben oui, c'est bien que ça s'obtienne », et en même temps, est-ce que c'est ça la révolution du désir ? Est-ce que c'est passer devant un maire pour être comme tous ? Sachant comme tous, je répète, pas comme tous, mais enfin comme tous les citoyens. Devenir, c'est devenir enfant, devenir voyou, devenir femme, devenir imperceptible. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui, comme ça, que j'ai pu rencontrer, qui étaient qui se disaient très 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 guattarien, de l'oso-guattarien, qui disaient il faut devenir imperceptible. Quelqu'un qui avait un ego, et qui a toujours un ego absolument surdimensionné, qui a dire devenir imperceptible, ça veut dire quoi ça, c'est... Enfin, je veux dire, on peut pas devenir imperceptible. Tenter de se rendre visible, ou alors voir et repérer comme le fourmilier, lorsque l'on est illisible. Parce que tenter de devenir illisible, là encore,
ça c'est... Ça peut pas être un programme.
Eh ben non, ça je crois... Enfin,
il y a une partie qui s'appelle
oui,
programme.
Oui, eh ben, oui. Et vous avez vu la partie en question. La partie programme, en fait, c'est une suite de phrases, toutes, ne pas considérer le désir, point virgule. Comme une superstructure subjective plus ou moins à éclipse, passe à la ligne. Faire passer le désir du côté de l'infrastructure, virgule, la famille, virgule, le moi, et la personne du côté de l'antiproduction, point, à la ligne. Abandonner un abord de l'inconscient par la névrose et la famille, virgule, pour adopter celui plus spécifique des processus schizophréniques, virgule, des machines désirantes, point, à la ligne. Renoncer à la saisie compulsive, etc. Il y en a, se défaire du signifiant, etc. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est que, vous verrez, c'est dans le bouquin, c'est absolument pas un texte construit. Ce sont des phrases comme ça qui, quand on les lit comme ça, sont d'une artificialité absolument énorme. C'est intéressant parce qu'on voit que non, ça ne peut pas être un programme, mais on ne peut pas lâcher la notion de programme. Il faut bien la mettre quelque part. Alors c'est important de la mettre dans ce bouquin. Il faut bien la mettre quelque part. Donc non, la révolution moléculaire ne peut pas être un programme. En même temps, je ne connais personne. Enfin, l'art pour l'art, moi, j'y crois pas une seconde. Enfin, c'est l'art pour survivre éventuellement, l'art pour s'exprimer, l'art pour rien du tout éventuellement, même le pour rien du tout, mais pour lui-même, ça me... Bah oui, je vois pas dans quelle mesure ce qu'on ferait, on serait tenant d'une révolution moléculaire s'il n'y a pas un programme que l'on met quelque part. Le tout fait en sorte que le programme soit pas derrière ou devant, soit transversal. Donc non, ça peut pas être un programme, mais en même temps, vous pouvez pas faire ce programme. Non, devenir femme n'est pas un programme, non. Mais en même temps, lorsque vous êtes homosexuel, évidemment que c'est un programme. Enfin, je vois pas comment ça pourrait ne pas être un programme. Mais en même temps, sa force, c'est de ne pas être un programme. Donc je dirais qu'il s'agit pas tant de venir... il s'agit pas tant de faire en sorte que ça révolutionne moléculairement, mais de voir où est-ce que c'est en train de se passer. Ou est-ce que à ce moment-là, il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui marche pas, qui décode, qui se déterritorialise. Là, voilà. Ensuite, ce qu'on en fera, un programme, etc., j'ai presque envie de dire que c'est pas la question. Enfin, c'est pas la question. Évidemment que c'est une question. C'est une question importante. Mais il y a un abord, un niveau où ce n'est pas la question. Au lieu de dessiner une carte capitaliste parfaitement bien, et voilà, où on sait comment s'échangent les différentes entités individualisées, on crée une cartographie où il y a des points, vous savez, comme ce que je trouve fascinant, moi, sur Google Maps, lorsque vous voyez la Terre de jour avec le vert des forêts, le blanc des montagnes, le bleu des océans, et puis tout d'un coup la Terre tourne et on arrive sur la nuit, et qu'est-ce qui apparaît? Ben, vous repérez en fait les villes aux lumières électriques. Voilà, c'est d'une cartographie à une autre. Là, ça serait, il y a des points qui, à un moment, se voient. Tiens, on s'en approche. Ces points sont très, très fuyants et à peine entreaperçus que déjà ils se dissolvent. Mais ils ne viennent pas remplacer la partie éclairée. Ils viennent simplement vous permettre ce décalage. C'est ça, la révolution, je pense. C'est probablement ça, la révolution. C'est ce changement d'angle constant. Est-ce que ça a un but? Est-ce que ça a une fonction, un intérêt? Oui, sûrement. C'est effectivement pas d'être témoin de la révolution. Non, c'est ce changement d'angle-là, c'est un changement subjectif radical. Si révolution veut dire sortir, parce que je pense qu'il y a une définition simple, hein, on peut donner une définition simple de la révolution pour Guattari. Je pense que voilà, c'est, attention, je me mouille. La révolution pour Guattari, c'est cet état subjectif de sortie du système capitalistique mondial intégré. Voilà, ça, je pense que c'est ça, la révolution dans son idée. Est-ce que ça peut être un programme? Oui, non. Biffer la mention inutile. Est-ce que c'est repérable? Oui, non. Biffer la mention inutile. Est-ce que c'est... Voilà, ensuite, après, c'est la question. Mais je pense qu'il y a cette idée-là. Bah, en tout cas, dans ces écarts-là, oui, de fait, le capitalisme est bien emmerdé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout ce fonctionnement-là, tout ce système se lève. Et ça, c'est l'expérience. Contrairement à ce que disait Descartes, c'est ça l'expérience la mieux partagée du monde. C'est ce moment où, subjectivement, on n'est pas tous ensemble dans le capitalisme, c'est pas la raison qui est la mieux partagée du monde. C'est ce moment où il y a un suspens. Dans ce suspens-là, alors là peut se réinventer, mais tous les possibles, tous les devenirs, évidemment. C'est ça la révolution. C'est le capitalisme. Est-ce qu'ensuite, ça va nous ouvrir sur un nirvana, sur le capitalisme qui ne se refermera pas, sur une révolution, sur ce qu'on entend au sens vraiment très politique, une révolution de notre système? Oui, on peut l'espérer, bien sûr, c'est ça le programme. En même temps, il s'avère que cette expérience-là, oui, ça, c'est déjà une façon de ne pas être témoin. Oui, oui, c'est très beau ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est pas être témoin, c'est être au contraire vachement acteur, en fait, être totalement dans ce mouvement-là. Et ça, c'est d'une grande, ouais, une grande puissance. Ouais, j'aime bien cette idée.
Superstructure subjective, plus ou moins à éclipse. Faire passer le désir du côté de l'infrastructure, la famille, le moi, et la personne du côté de l'anti-production. Abandonner un abord de l'inconscient par la névrose et la famille pour adopter celui plus spécifique des processus schizophréniques, des machines désirantes. Renoncer à la saisie compulsive d'un objet complet symbolique de tout le despotisme. Se défaire du signifiant. Se laisser glisser du côté des multiplicités réelles. Cesser de renvoyer dos à dos l'homme et la machine. Leur rapport est constitutif du désir lui-même. Promouvoir une autre logique, une logique du désir réel, établissant le primat de l'histoire sur la structure, promouvant une autre analyse dégagée du symbole militantisme et de l'interprétation, et un autre militantisme se donnant les moyens de se libérer lui-même des significations de l'ordre dominant. Concevoir des agencements collectifs d'énonciation qui dépassent la coupure entre sujet de l'énonciation et sujet de l'énoncé. Au fascisme du pouvoir, opposer les lignes de fuite actives et positives qui conduisent au désir, aux machines de désir et à l'organisation du champ social inconscient. Pas fuir soi-même ou personnellement, mais faire fuir comme on crève un tuyau ou un abcès. Faire passer des flux sous les codes sociaux qui veulent les canaliser, les barrer. À partir des positions de désir locales et minuscules, mettre en cause, de proche en proche, l'ensemble du système capitaliste. Libérer les flux, aller toujours plus loin dans l'artifice.
Thank you. Félix Guattari. La révolution moléculaire. Édition établie et préfacée par Stéphane Nadeau. Aux éditions Les Prairies Ordinaires.